Une émission réalisée par Camille et Élodie. Station Sérail interroge les liens que nous entretenons avec notre territoire. Nous partons de ce principe que chaque lieu se charge et se transforme à la mesure de nos passages. Chaque corps se charge et se transforme à la mesure des paysages qu'il rencontre et des histoires qu'il y inscrit. Nous sommes liés de manière sensible et immatérielle aux espaces que nous occupons. Épisode numéro 6, Meillac. Nous sommes en ce moment en train d'écouter cette émission au bar Le Saloon. N'hésitez pas à nous y rejoindre.
L'intégralité des entretiens réalisés tout au long de cette semaine sera archivée et disponible en mairie.
Station Sérail.
Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023. Nous poursuivons la route en direction de la dernière commune de cette saison sur le territoire de la Bretagne romantique, Meillac. Meillac et sa bataille, qui opposa au XIVe siècle Bertrand du Guesclin à Robert Felton. Meillac et sa grotte, une copie à l'identique de la grotte de Lourdes, créée en 1870 par Mademoiselle Duvautenay. Meillac et sa départementale qui traverse le bourg, la D794, une infinie ligne droite en direction de l'eau, vers Saint-Malo. Meillac, début de l'été 2023.
Mademoiselle Duvautenay fait construire près de l'école communale un corps de bâtiment destiné à servir d'hospice pour les pauvres et vieillards des environs. L'hôpital, que la bienfaitrice nomme « les Cinq Plaies », est béni le 23 octobre 1863. En 1950, les sœurs de la Providence de Saint-Brieuc dirigent l'école de filles et transforment l'hospice en centre familial pour jeunes filles. Rolande y a travaillé 37 ans.
J'étais à 200 mètres de mon lieu de travail. Hein. Et puis, au départ, j'ai pu emmener mes enfants, moi, au départ. Hein. Avec les religieuses, les filles s'occupaient de mes enfants, tout ça. C'était familial. Ça s'appelait le centre familial. Donc, ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Donc, comme elles avaient du mal à recruter, tout ça, elles m'ont dit, ben, Roland, on vous garde, mais vous amenez vos enfants, tout ça. C'est la famille. Donc, les filles étaient bien. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes, quand on les accueillait, c'était l'après-guerre. Donc, on les gardait 4 ans. Il n'y avait pas de famille d'accueil, ça n'existait pas. Donc c'était la famille, donc on vivait vraiment presque en communauté, si on veut dire. Donc moi, mon rêve, ça aurait été d'habiter Combourg, et puis mon mari se plaît bien là, on part pas. Et on est là, on est resté là. Mais mon lieu, c'est la grotte. Et la grotte. Parce que quand je travaillais, j'avais une collègue. Des fois, on avait une demi-heure, entre deux, une heure et demie, deux heures, et on allait finalement prier à la grotte. Et après, on revenait bien. Parce qu'avec ce qu'on vivait, nous, avec les jeunes, tout ça, c'était pas facile. Et on revenait bien. Et moi, j'étais destinée à la lingerie. Donc, j'accueillais les jeunes, on marquait leur linge et tout ça. Je pouvais parler aux jeunes. Parce qu'elles arrivaient, figurez-vous, on n'avait pas leur dossier. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'elles avaient vécu, qu'est-ce qu'elles avaient. Donc, quand je marquais leur linge, elles arrivaient à me confier des choses. Tu vois ? J'en ai eu une un jour, elle arrive, elle me dit comme ça, ben, je dis tiens, on va aller ramasser le linge, on va aller au jardin ramasser le linge. Elle voit les cheminées, elle me tient le bras, elle me dit, mais Roland, il y a des cheminées, on fait du feu dans les cheminées. Je dis non, il y a le chauffage. Hein, et puis, elle prenait la douche, elle avait des douches, on avait des douches, ils avaient fait ça au rez-de-chaussée, à la cave. Elles avaient des belles douches, hein, c'était bien. Mais quand elles prenaient les douches, on allait avec eux, parce que si elles voulaient qu'on leur lave le dos, on leur lavait le dos. Mais elles gardaient leur culotte et tout ça, c'était... Et puis, là le tour de Marie-France, elle me dit, non, tu vas pas me laver, Roland, tu vas pas me laver. Ben, je dis, si, tu vas dire te laver. Non, tu vas me brûler. Je dis, tu vas me brûler. Ben, je dis, écoute, Marie-France, on avait une baignoire sabot. J'ai dit, écoute, on va couler de l'eau dans la baignoire. Je mets mes pieds dans l'eau. J'ai dit, écoute, vois, regarde. Eh bien, elle est venue dans l'eau. Je lui enlève sa chemise. Elle avait le dos tout brûlé. Sa grand-mère l'avait jetée dans la cheminée. Tu vois. Donc on était... alors, Mme Fournier, moi... Moi qui s'appelait la belle-sœur à savoir Denise. Denise, moi, les jardiniers, on était 6, 7, 8 avec Sorvornik pour s'occuper de 38 filles quand même. Donc on comptait pas nos heures. Mais c'était familial. C'était bien. Donc après, il y a eu des éducateurs, il y a eu une femme qui est venue pour leur apprendre la scolarité et tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces jeunes-là, il y avait des filles qui avaient un niveau certificat d'études. Vous voyez, à cette époque-là, c'était ça. Donc petit à petit, ça s'est agrandi, il y a eu des éducateurs, il y a eu Sœur Amélie qui est arrivée, qui a fait beaucoup évoluer. Et après, on a eu Monsieur Boyu qui a fait évoluer à bloc, lui, hein, qui a tout développé, il y avait plein d'éducateurs et tout ça, on était une quinzaine après. On avait doublé d'effectifs, en fait. Voilà. C'était important. Et après, donc quand M. Boyu est arrivé, on a eu les maisons d'accueil, familles d'accueil. Donc il a organisé tout ça et petit à petit, mon mari a été plâtrier chez Béraud, chez Paraguay Béraud. Et il fallait un chauffeur, il avait acheté un gros, comme un petit car. Et puis mon mari, il les emmenait toutes les semaines, à la fin de la semaine, chez les parents ou familles d'accueil. On a vécu des belles choses, des choses dures des fois, parce que c'était pas facile. Mais entre éducateurs et tout ça, on était assez liés. Il y avait une bonne entente et tout ça. On a eu un directeur après qui est arrivé, là, M. Goupy, qui nous a reconnus, hein, il m'a refait faire des formations. Je suis allée à l'école hôtelière et tout ça, refaire une formation. Parce que la cuisinière, quand je suis arrivée, elle était brave, c'était une brave femme et tout. Et puis, quand on a eu Sœur Amélie qui est arrivée, elle a dit, normalement, vous avez droit à une journée de congé par semaine. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas ça. Donc, elle dit, Roland, vous remplacerez Mme Fournier. Vous irez en cuisine. Oh, mais pendant un mois, j'ai fait la cuisine. Et puis après, j'ai dit à Sœur Amélie, mais ça serait bien que les jeunes viennent avec moi travailler en cuisine. Qu'elle fasse un repas et tout ça, elle savait pas ce que c'était. Elle épluchait les légumes, mais c'est tout. Elle savait pas comment qu'on cuisait, c'est vrai. Hein? Et donc, oui. Et puis après, M. Boyu est arrivé, il dit oui, mais c'est bien, mais vous avez pas de diplôme pour encadrer ces jeunes-là. Hein? J'avais que mon certificat d'études, moi, alors tu vois. Alors du coup, j'ai fait une année à l'école hôtelière à Dinard, mais j'allais que le vendredi et le samedi. Je faisais toute ma semaine quand même, et j'avais quand même deux enfants. Hein? Bon, ça s'est fait, et après je pouvais encadrer donc en cuisine les jeunes. Et après il m'a envoyé à Chantilly. J'étais faire une semaine de stage à Chantilly, où il y a les chevaux, là, tout ça, au château de Chantilly, pour apprendre les expressions, parce qu'on faisait des synthèses sur les jeunes et tout ça, donc fallait savoir s'exprimer, fallait savoir parler, fallait savoir... Donc voilà, j'ai fait une formation là. Et après, j'ai fait une formation, refaire une formation lingerie, pour apprendre aux jeunes en fait. Et donc voilà. Et après, je pouvais encadrer. Donc quand M. Goupy est arrivé, lui, il m'a dit, Roland, avec tout ce que vous avez comme bagage, ça serait bien que vous faisiez un atelier crêpe. Bon, j'ai fait une formation crêpe et galette. Et les jeunes, on leur a appris, on a acheté les galetiers et tout. On faisait le repas pour les éducateurs ce jour-là, complet. Alors c'était intéressant, hein. On a eu des jeunes qui ont été travailler après en crêperie. Hein. Donc c'était... Mais le mieux, c'est qu'elles étaient mieux reconnues, c'était dans la cuisine, le ménage... La lingerie, tout ça, elles ont pu travailler. On en a placé à Pochaillou, à la lingerie de Pochaillou. On les mettait en stage. On a été les premiers à inventer l'insertion. L'insertion, ça n'existait pas avant, service d'insertion. Donc on les mettait un mois chez nous, un mois, vous voyez, en formation. On avait, oui, parce qu'on avait des éducateurs, on les appelait les éducateurs du service de suite. Donc c'est eux qui suivaient les jeunes dans les stages et tout ça. Vous savez, au départ, les jeunes, quand elles sont arrivées, elles étaient habillées par la population, on appelait ça les enfants de la population. Ça s'appelait comme ça. Hein, ces enfants-là, ils avaient un drôle de nom. Hein. Donc elles allaient se faire habiller à la population à Rennes. Elles étaient habillées comme des grands-mères, là, avec des grands manteaux et tout ça. Mais quand elles venaient à la messe à Meillac, les gens du bourg disaient « Ah ben là, les folles de Meillac !» Vous vous rendez compte ? Mais quand on est arrivé, quand je suis arrivée, moi, là-dedans, il y avait Denise, là, qui avait fait beaucoup de couture et tout ça, qui avait un diplôme d'ailleurs et tout. Et puis, on disait, il faut qu'on... Un jour, les bonnes sœurs sont parties à Rennes faire un tour. Pendant ce temps-là, j'ai dit à Denise, si on leur raccourcissait leur blouse. Alors, je pense qu'elles avaient des blouses qui arrivaient là, déjà physiquement, elles étaient marquées, certaines. J'ai dit à Denise, allez, on coupe les blouses. On coupe les blouses. Voyons. Quand la supérieure est arrivée, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Après, moi, les filles, mais dit, comment ça se fait que vous avez des blouses comme ça? Ah ben, c'est Roland et Denise. On va voir. Nous voulons appeler au bureau, mais on a eu de la chance, c'est Véronique qui était là. Alors, je dis, mais vous vous rendez compte, elles font vieilles comme ça et tout ça. Mais je dis, vous savez, on a gardé les bouts, hein, vous les remettre. Alors, Sœur Véronique dit, ben, elles sont mignonnes comme ça. Et bien, Sœur Véronique dit, ben, on va raccourcir leur manteau. Ah, et bien, elles avaient une autre allure quand elles allaient à la messe. Hein.
Meillac, Miliac. Amiliacum fundus, 48 degrés, 24 minutes, 44 secondes nord, 1 degré, 48 minutes, 48 secondes ouest. L'altitude moyenne est de 57 mètres, 32,21 km² de terre chargée d'histoire. Un ancien champ de bataille, d'anciennes forteresses antérieures au XIIe siècle, au Tertrais, à la ville d'Ao, des menhirs au Bourgneuf, des tumuli dans les landes de Pirieuc et Fersac, et de l'eau, 3 moulins et 4 ruisseaux.
Il y a des êtres qui traversent des tempêtes, des voyages, qui partagent des rêves et qui survivent à des guerres. Aujourd'hui, ils sont là, à nous raconter leur histoire, remplie d'images et de souvenirs. Nous sommes accueillis chez Colette et Jean-Yves.
Je suis à Meillac depuis 1947. Mes parents habitaient la commune, mes grands-parents aussi, donc de génération en génération, nous sommes là. Et nous sommes toujours restés. On y vit encore aujourd'hui. Par contre, nos enfants sont partis, comme tous les jeunes des communes. Hein. Les enfants partent.
Oui, mais tes parents, tes grands-parents tenaient déjà un café tabac.
Un café. Un café bureau de tabac. Et avant, 47, mes parents habitaient la chapelle aux Fils-Mains, tenant aussi là un café bureau de tabac. Succession de ma grand-mère paternelle. Et là, succession des parents maternels. Donc je n'ai connu mon père pour la première fois qu'en juillet 1945. Oui. Alors, je pense qu'il faut que certaines personnes réfléchissent. Peut-être que... Voilà. La vie est facile maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Le 8 septembre, le jour de la fête de la Sainte Vierge, on décorait nos maisons en bleu, ciel et blanc. Toutes les maisons du bourg, toutes. C'est-à-dire que tu étais pour où tu étais, tout le monde décorait, même que c'était pas...
Décorait avec quoi?
Avec du papier, le papier crépon, tout ça. On faisait ça et on avait une très belle cérémonie avec une retraite au flambeau le soir. Oh, c'était superbe. Ben bon, maintenant, ça perd un petit peu bien encore, mais on ne décore plus il y a longtemps. Et alors, on faisait. Alors, là, c'était les fêtes religieuses, là. Hein, c'était. Et on avait aussi, mais bon. Les fêtes de Dieu, autrefois. Les fêtes de Dieu, c'était des grandes cérémonies, quand même, à l'époque. Hein. On allait de l'église à la grotte en procession et on décorait la route avec de la sueur teintée, du marc de café, des pétales de marguerite, des nunus, des digitales. Et on avait des...
Mais ils plantaient des petits arbres aussi.
Ah oui,
comment c'était de...
du boulot.
Ah, du boulot.
Des boulots.
Tout le long de la route.
Tout en bordure des maisons. Nos parents allaient dimanche matin, coupaient ça dans les champs, puis ils piquaient ça tout le long de la route. C'était... Et qu'est-ce qu'on avait ? On avait des gabarits pour faire les dessins sur la route. Hein.
Avec des reposoirs, ils appelaient ça un reposoir, où c'était un lieu où ils s'arrêtaient pour...
Avec le Saint-Sacrement, oui.
Il y avait beaucoup
il y avait un reposoir là, quoi. Sur le marche de l'église. Et donc l'Assemblée des reliques qui existait jusqu'à l'année dernière. Il y avait des manèges, il y avait plein de manèges sur la place, en descendant. Et il y avait les marchands forains de chaque côté de la grande rue, là-bas, depuis le carrefour, là, presque jusqu'à la grotte. C'était important. Et on a une année, je me souviens, ça devait être en 47 probablement, ou peut-être 48, il y a eu des chars. On a fait des chars, comme à la fête des fleurs à Combourg. Je me souviens que dans notre quartier, c'était le moulin à café avec des grains de café. Je me souviens de ça. C'était la convivialité. On n'a plus maintenant. La télé a tout perdu.
Télé et puis Internet après.
Ah oh, ben Internet, on est encore.
Mais il y avait des murets sur la place, là, à chaque côté de la place. Et les gens, le soir, quand il faisait beau, eh ben, ils se rassemblaient. Il y en avait un qui allait, les autres le suivaient. Et puis
on s'assoyait sur la murette, là.
On discutait.
Ici déjà. Le soir, on était sur la murette, il y en a un qui sortait. Si les autres ne sortaient pas, il y en a un qui savait siffler, et puis hop, tout le monde arrivait. Et puis on parlait de choses et autres de la journée, c'était convivial. C'était. Mais maintenant, d'abord, il n'y a plus la murette, et puis je vous dis, la télé, ça a tout cassé, tout, je trouve, moi, mais bon. Il faut bien évoluer aussi, hein. C'est comme ça la vie. Hein. Tout a bien changé. Hein. Le commerce ne se fait plus du tout de la même façon. Autrefois, les gens venaient avec leurs chevaux. On avait au mur des maisons, ici on en a encore, on avait des boucles fixées dans le mur et ils attachaient leurs chevaux là. Et ils venaient là. Et les gens venaient le dimanche à la messe à pied.
Il y avait trois messes.
Il y avait trois messes, ouais. C'était
archi... Il y avait deux prêtres.
Ah bah oui, on avait un curé et un vicaire. Il y a même eu un vicaire instituteur. On a eu un vicaire, on avait des vicaires
des
instituteurs
aussi.
Ah bah il y avait des religieuses qui étaient au château, là. On vous a parlé tout à l'heure. C'était des religieuses qui nous faisaient l'école, de toute façon. On n'avait pas besoin d'aller à Combourg, si vous voulez, pour faire nos... Enfin,
il n'y avait pas de supermarché.
Non, il n'y avait pas de supermarché, mais quand même, on trouvait... À Meillac, ce qu'il nous fallait, on avait des marchands, enfin, il y avait deux marchands de chaussures, mais un plus important quand même. Donc il y avait les chaussures.
Une mercerie aussi.
Il y avait une mercerie de l'autre côté. Là, ils ont commencé à faire le...
Marchand de tissu aussi.
Il y avait un marchand de tissu. Donc il y avait des couturières pour... évidemment, faire les vêtements. Et puis après, Madame Leroux s'est mise à faire le prêt-à-porter aussi. Mmh. Un petit peu, des pulls, des... Mais on avait tout ce qu'il fallait.
Paulo Coelho a écrit « Les hommes rêvent du retour ». Plus que du départ. Et s'il fallait s'éloigner pour y voir plus clair? Et si le voyage nous permettait de rencontrer nos racines? Il y a, à Meillac, des histoires de départ et de retour. Cette fois-ci, c'est avec Alice que nous goûtons à la possibilité d'un ailleurs.
J'ai 34 ans et je suis née à Meillac, il y a donc 34 ans. Et donc, j'étais à l'école de Meillac, j'étais au collège à Combourg, au lycée à Combourg, après j'ai fait mes études à Rennes. Je suis partie un petit peu en Espagne, je suis revenue à Rennes et là je suis revenue à Meillac depuis 4 ans. Disons que je ne me projetais pas forcément y vivre étant jeune. Et en ayant vécu ailleurs, en ayant vu d'autres choses et en ayant connu d'autres environnements, je me rends compte que quand même c'est un cadre assez privilégié, que c'est un petit village très agréable. Et c'est, oui, c'est un cadre de vie qui est très agréable quand même. Ouais, j'avais pas une très bonne vision de Meillac quand j'étais ado. J'avais comme une sorte de certitude qu'il se passerait jamais rien pour moi ici, quoi. Que c'était très limité. Enfin, après, j'ai pas mal voyagé, donc j'avais beaucoup envie de voyage. Donc forcément, c'était aussi ça. C'était l'appel de l'ailleurs, de l'Espagne surtout. Et je n'imaginais pas trop rester à Meillac. J'ai associé beaucoup Meillac aussi à des choses très traditionnelles, très ancrées dans le passé, en fait. Voilà. Après, ça a beaucoup changé par rapport à quand j'étais enfant. Mais ouais, j'avais une copine, avec une copine, on s'était dit ça, genre qu'on reviendrait jamais à Meillac, quoi. Personnellement, j'ai évolué, évidemment, et la commune aussi, enfin, je dirais, moi, je m'intéressais pas non plus à ce qui se passait, ni politiquement, ni associativement, ni tout ça, c'était vraiment une sorte de ressenti qui n'était pas forcément fondé non plus, quoi. C'était quelque chose que je m'imaginais, parce que ça me plaisait aussi de me l'imaginer pour m'imaginer ailleurs. Dire que je ne le regretterai pas. Et non, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, il y a tout un tas de possibles, en fait. Parce que effectivement, il y a une volonté aussi. Les gens sont volontaires pour faire des choses, pour organiser. Quand on a organisé Broussailles l'année dernière, donc c'était une petite fête sur 2 jours, une expo festival dans un bois. Enfin, on a été très vachement porté en fait par les gens qui étaient super soutenants. Tout le monde s'est investi bénévolement. Enfin, pour le coup, oui, le bénévolat si légendaire du coin, il a aussi été. On l'a vu quoi à ce moment-là. Ouais, il y a quelque chose quand même du traditionnel, de l'agricole, du. Oui, il y a quand même. C'est très, très agricole, très fermé. Ça, c'est pareil. Ça a énormément évolué depuis que je suis petite. Moi, j'avais une vision assez limitée de tout ça. Maintenant, il y a beaucoup d'exploitations en bio. Les gens ont envie de changer les choses. Nos voisins, là, au Guet, la ferme du Petit Bois, ils sont installés en bio depuis super longtemps. Enfin, ils ont été. C'est pas récent, quoi. Ça fait un moment, ça doit faire presque 10 ans ou plus de 10 ans qu'ils sont en bio. Ils sont vraiment fait partie de ces gens qui avaient envie de changer l'agriculture, qui avaient envie de voir les choses autrement, de faire les choses mieux. Si on parle des enjeux un peu de nos générations et de ce qui nous attend, recentrer les choses sur quelque chose de plus local. Je pense que pour le coup, il y a tellement de richesses, que ce soit agricole, que ce soit culturel, que ce soit. Nous, on a vu avec Broussailles, du coup, les talents artistiques et culturels locaux. Si on devait vraiment se recentrer sur du local et si tout devait fonctionner plus comme ça, il y a quelque chose à faire. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a, une possibilité d'autonomie. Alimentaire, culturel, enfin je pense qu'il y a, c'est une commune qui a beaucoup de ressources. Et c'est il y a aussi une volonté un peu politique aussi d'améliorer, d'être toujours dans le. D'être attentif en tout cas aux besoins, en énergie, à tout ça. Donc je pense que si on devait idéaliser tout ça, enfin. On pourrait imaginer un petit village autonome avec des gens qui s'entraident. ça serait chouette. Mais par contre, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience quand je suis partie vivre à l'étranger, à Madrid. Il y avait ce truc de t'as tout à construire, tout est à créer. Enfin, c'est génial, c'est super. Tu rencontres de nouvelles personnes, tu refais tout depuis zéro. Et en fait, tu te rendais pas compte en fait que tu étais attachée à tout ça, à tous ces gens, à toutes ces choses, à tous les aux lieux. Ouais, c'est un peu un sentiment d'appartenance. Alors c'est un peu plus global que pour moi juste Meillac ou la Bretagne romantique, mais à la Bretagne quoi, par exemple, la mer, tout ça, parce qu'en fait au final ici la mer elle est très proche et à la fois on n'y va pas non plus tous les 4 matins. Mais quand tu vis par exemple à Madrid, un endroit où il fait sec comme jamais, tu te rends compte qu'en fait tu es très attaché à cette possibilité d'aller voir la mer tout le temps, même si tu n'y vas pas, mais tu as ce... Tu sais que tu prends ta voiture en une demi-heure, tu y es. À Madrid, t'as pas ça. Il faut faire 4 heures de voiture et c'est vrai. Et en fait, ouais, le fait de vivre ailleurs, tu te rends compte de ton attachement à ton terroir ou ton territoire ou je sais pas. Ouais, c'est une histoire de sentiment d'appartenance que moi j'avais jamais identifié. Je savais pas trop ce que c'était en fait. Et en fait, il faut partir pour le connaître quoi.
Meillac, c'est une grande rue, toute droite, et les gens sont alignés de part et d'autre de cette grande rue. Il y a des petits hameaux qui se greffent là-dessus avec des routes secondaires moins importantes que la route principale.
Bon, il y a à peu près tout, il y a un soccer, bon, il y a plein de trucs à Meillac.
C'est un village qui est sympathique.
Et c'est
un village qui est sympathique.
C'est un petit village, mais c'est bien.
Sympathique.
Il ne peut parler de la vie sans parler de la terre. Ses yeux regardent vers demain et ses racines sont profondes. Pour lui, l'eau et les arbres sont les garants d'un futur apaisé et vivant. C'est ainsi que nous poursuivons notre route, chez Georges.
Je ne suis pas originaire de Meillac, je vous l'ai expliqué. Je suis originaire d'une commune limitrophe, semi-limitrophe, Plerguet. Et moi, je suis arrivé à Meillac en 1976 déjà, et où j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse et puis avec qui je partage ma vie depuis ce temps-là, quoi. Donc c'est un hasard qui m'a fait venir à Meillac et voilà, c'est une soirée entre copains où on me dit tiens, on va aller au bal à Meillac et je lui réponds encore, c'est où ça, Meillac? Et heureusement, je suis venu avec lui et je rencontré mon épouse ce soir-là, quoi. De beaux hasards. Un bourg-centre qui a à peu près 1200 habitants sur presque 2000 que nous sommes maintenant. Un bourg-centre de 1200 habitants et une vaste étendue de campagne. On a 808 habitants à l'extérieur, mais qui sont très éloignés du bourg, hein, parce que quand on va on va prendre le cas du Bourgneuf ou du, pardon, pas du Bourgneuf, de la Mussière à aller à la Sauderaie, par exemple, on a presque 14 km dans un sens, on a presque 13 km dans l'autre. Donc quand on va du Par jusque le haut de l'Orée, là-bas, ou le Petit Trémaudan, on a une très grande distance. Et donc c'est pour ça que la commune de Meillac vit plus avec ses propres habitants, parce que quand vous êtes à la Mussière, vous êtes à 900 mètres de Bonnemain, quand vous êtes à la Garenne, vous êtes à 2 km de Norina, quand vous êtes à Louviers, vous êtes plus proche de Ménilroc, Saint-Pierre-de-Péguin, que de Combourg, et quand vous êtes sur la Sauderaie, vous êtes plus proche de la chapelle Offismain, et pareil de l'autre côté, le Haut-de-Lorée, le Petit Trémaudan, Poncio, tout ça, vous êtes très proche de Combourg. On a des villages qui sont très extériorisé par rapport à Meillac. Donc les gens vont dans les communes extérieures. Et c'est vraiment, on vit vraiment avec nos habitants, les habitants du bourg de Meillac, vivent vraiment à Meillac. Mais c'est vrai que quand vous faites 8 km pour venir à boire un coup à Meillac, ne serait-ce au Saloun, ou aller boire un coup à Bonnemain, vous allez à Bonnemain, c'est plus proche hein, quand vous êtes à la Mussière, par exemple. Donc voilà, c'est un village très étendu. Mais par contre, on sent les gens attachés à la commune. Ils participent, ils font vivre la commune et nous on essaye de créer ces liens, quoi. Des gens du cru, des gens qui sont là, des familles qui sont anciennes sur la commune, hein. Il y a des gens qui sont là depuis des communes, des familles qui sont là depuis 3, 4, 5 générations, qui ont un attachement à leur terre, qui ont un attachement à leur patrimoine immobilier et puis qui veulent le conserver et qui veulent vivre sur le territoire communal. Mais je vous dis, ce sont vraiment des gens attachés, qui ont leurs racines ici et qui ont le cœur ici, leur cœur ici, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un attachement vraiment au sol, quoi. La vie, c'est l'intérêt général, vivre avec les autres dans le respect de chacun. Je pars du principe, j'ai une phrase que je dis quelquefois, que c'est l'illusion est de croire qu'on est venu sur Terre pour y faire quelque chose. C'est-à-dire, on n'est que de passage. Notre illusion, c'est d'essayer d'apporter quelque chose. On rentrera dans l'histoire, on ne rentrera pas dans l'histoire. Moi, je ne cherche pas ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on laisse une trace. On laisse une trace, mais on n'est toujours qu'une illusion. Dans 100 ans, ou même dans 50 ans, on aura oublié Georges Dumas, on aura oublié ce qui a été fait, ou ça aura été modifié, voilà. Mais on n'est que... C'est pas ça, vous voyez, on est ici, vous êtes à la mairie, c'est un ancien presbytère. Eh ben, le presbytère a été une illusion avant de venir à la mairie. La mairie, dans, je sais pas, 50, 60 ans, elle sera peut-être déplacée. Cette mairie sera illusion, et puis il y en aura une autre qui la remplacera, et on oubliera la première, voilà. Ce sont que des passages comme ça, quelque chose. C'est vraiment qu'on est que dans l'éphémère. Entre Saint-Malo, Rennes, le Mont-Saint-Michel, on est vraiment au cœur de ce triangle-là, triangle magique. Et puis que Meillac, c'est une petite cité toute en pierre, et la pierre est éternelle. Tout en le modernisant. C'est garder nos racines tout en faisant grandir l'arbre. Je reviens souvent à l'arbre, parce que pour moi, l'arbre, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. C'est lui qui garde notre eau, c'est lui qui filtre notre eau, c'est lui qui nous donne de l'air, enfin de l'oxygène, c'est lui qui nous fait de l'ombre, qui nous rafraîchit. L'arbre, pour moi, c'est essentiel à la vie de l'homme. Des espaces verts dans les... Et on en revient toujours. Des espaces verts, ce sont des pelouses, ce sont des fleurs, ce sont des arbustes, mais ce sont aussi des arbres. Et on en revient toujours. Toujours au même, où l'arbre est important. Un îlot de chaleur, on peut le combattre par des arbres. C'est clair. Voilà, donc on revient toujours à ce que je vous disais dès le départ. L'arbre, c'est la vie de l'homme dépend de l'arbre. Il n'y a pas que de ça, mais la biodiversité, quand vous cassez la chaîne alimentaire d'un oiseau, eh ben, cet oiseau va mourir et cet oiseau ne servira plus à nourrir quelqu'un d'autre. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut préserver. Je vous dis, c'est pas que l'herbe. Quand on replante une haie, parce qu'elle va permettre de retenir l'eau, filtrer l'eau avant qu'elle la rejoigne les étangs de Mirlot et de Beaufort, ça, c'est de la protection de l'environnement. Mais on protège les arbres, on protège les haies pour protéger l'eau, qui va permettre aux agriculteurs de retrouver les parcelles plus proches de leur lieu, de leurs sièges sociaux, et donc moins de déplacements sur les routes, donc des économies en gasoil, des économies en matériel, et voilà. Et tout ça, il faut que ce soit du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Une fois la carte dépliée, on y voit un arbre à l'envers, un arbre penché, un arbre qui va fier peupler les forêts contre les déserts.
Thank you.
Beaucoup de philosophes et de poètes ont écrit en marchant. C'est dans les fossés que Rimbaud écrivait ses poèmes, et c'est en marchant sur les pas de Sylvain Tesson qu'Emmanuel nous a ouvert la porte de ses pensées, de ses réflexions, de ses constats et de ses espoirs. De Menton à Meillac et ses quelques 1000 kilomètres à pied.
J'ai fait valoir mes droits à la retraite au 1er janvier 2023. Avant, j'étais directeur de centre de formation, pour les métiers de l'agriculture, du paysage et de l'eau, et de l'élevage. Et ayant lu le bouquin de Sylvain Tesson il y a 4 à 5 ans, déjà à l'époque, je m'étais dit, c'est ça ce qu'il faut que je fasse. Et il faut vraiment que je fasse cette déambulation. Et donc, j'ai élaboré un parcours qui est parti de Menton pour rejoindre donc Meillac. Et cela en 70 jours et 1450 km environ. Le tout à pied, avec toile de tente et bazar qui permet donc d'être autonome. Alors, chemin faisant, tout doucement, j'ai construit une espèce de question, si je puis dire ainsi, qui tournicote autour de en quoi cette déambulation de Menton à Meillac, avec ce que j'ai vu, avec ma lecture des paysages, avec la description que j'en fais, avec les gens que j'ai rencontrés à droite à gauche, est-ce que cette déambulation participe peu ou prou à une nouvelle lecture ou à une lecture renforcée, orientée différemment quant à un territoire comme Meillac et plus largement au sein d'une communauté de communes qu'est la communauté de communes de Bretagne romantique. Alors, voilà, donc c'est une question un peu vaste, peut-être un peu complexe. En tous les cas, j'ai essayé de répondre à ma manière à tout cela. Alors, qu'est-ce que j'ai vu durant tout cela? Bien sûr, la première partie de mon périple entre Menton et puis le Rhône, évidemment, j'ai vu des paysages remarquables, mais j'ai vu aussi des tas de choses quant à l'activité, à la présence humaine et à l'activité humaine. La première chose qui m'a marqué le plus dans ces territoires-là, notamment dans la première partie, entre Menton et Grasse plutôt, c'est, je suis un peu brutal dans mes propos, je m'en excuse, notamment auprès de ce même territoire, mais aussi auprès des élus, sur le manque de civisme que j'ai pu observer quant à la gestion des déchets. On trouve partout des gravats, des déchets de tout type, ça peut être un canapé arrivé dans un chemin de randonnée, on ne sait pas pourquoi, peut-être que le randonneur avait besoin de repos, mais en tous les cas, des déchets partout, sur le bord des routes, sur le bord des chemins, dans les rivières, ce qu'on pourrait appeler des rivières, et ça c'est très surprenant, et c'est vraiment, je trouve, une des grandes différences qu'il y a entre notamment un territoire comme la Bretagne, où on y trouve un grand civisme, un grand respect, me semble-t-il. Et ça, vraiment, c'est un point qui tout de suite m'a surpris, m'a étonné, m'a choqué. L'autre point important qui, effectivement, me questionnera tout au long de mon périple, c'est l'eau. J'ai traversé le Var, la rivière Le Var, j'ai traversé la Durance, j'ai traversé le Rhône. Le lit de la rivière, qui relève des temps géologiques, si je puis dire ainsi, est largement trop grand aujourd'hui pour ce qui coule comme eau dedans. Et ça, je le dis un peu en blaguant comme ça, mais ça m'a véritablement interpellé. Et puis, toutes les cultures, qu'on soit sur des cultures fruitières, toutes les cultures de vignes, etc., font l'objet d'un arrosage systématique. Enfin, on ne peut plus partir... plutôt parler d'irrigation. À tel point que j'ai rencontré à un moment un viticulteur au milieu de ses vignes qui me dit « Oh ben, ça fait 100 jours qu'il n'a pas plu. » La question, ce n'est pas de savoir si on aura du raisin et du vin, c'est plutôt dorénavant la question suivante. Aurons-nous de l'eau pour boire dans les mois qui viennent? Donc, ça, c'était pour moi vraiment la question brutale que j'ai ramassée un peu comme un coup de poing, si je puis dire, qui m'a ouvert les yeux. On voit bien que dans les territoires dans lesquels nous sommes, Meillac, que sais-je encore, communauté de communes, On a une densité de population qui est importante, la Bretagne. Et puis, on a une activité agricole qui est importante aussi. Et on voit bien en même temps que nos cours d'eau, depuis un certain nombre d'années, ont tendance à se dégrader en termes de qualité, de débit d'eau. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit bien au niveau du changement climatique, cela rapidement va nous rattraper en matière, donc, en termes de concurrence quant à l'utilisation de l'eau entre les besoins individuels, collectifs, en eau potable, et puis les besoins de l'agriculture et les besoins industriels et tout. Donc on comprend bien qu'à un moment, il va falloir réfléchir différemment quant à l'usage de l'eau et le partage de cette eau. Plus loin dans le Massif central, bien sûr, hein, la beauté des paysages, tout est vert, tout est magnifique, il y a des tourbières partout, l'eau coule à flot. J'ai franchi la Creuse en une seule enjambée, une eau magnifique, hein, que je retrouverai plus loin encore. J'ai rencontré des agriculteurs et agricultrices, et un jour j'ai rencontré une agricultrice. Et cette dame me dit, ouais, moi je suis installé sur 80 hectares, je produis du lait qui va être transformé en comté, je crois. Et puis je continue, je lui dis, mais en matière d'exploitation agricole, ah ben, n'en parlez pas, c'est la déprise. Il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite. Effectivement, on a le même constat dans les territoires comme Combourg, comme Meillac, etc. C'est une donnée de l'agriculture actuellement, malheureusement. Et cela se traduit, me dit-elle, par un agrandissement important des exploitations agricoles. Et puis, je garde ça en tête, chemin faisant, je m'aperçois que, effectivement, l'agrandissement des exploitations agricoles se traduit par un dérochage des parcelles agricoles, hein, puisqu'on est quand même dans le granit, donc un dérochage des parcelles. On se traduit par la création de fossés à ciel ouvert pour drainer un certain nombre de petites tourbières, des tourbières de pente ou des choses comme ça, et puis de l'arasement de talus qui permet évidemment d'avoir des surfaces agricoles, des parcelles plus importantes. On voit bien que derrière, c'est une forme de rationalisation du foncier qui va permettre une mécanisation plus importante dans le but donc de gagner du temps. On entend bien ça. Néanmoins, on peut poser l'hypothèse dorénavant, la vitesse d'écoulement de l'eau et la qualité de l'eau vont s'en trouver dégradées. Alors, pas obligatoirement à l'horizon de demain, mais plutôt à l'horizon de après-demain, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans. En remontant plus haut, là, à côté, ici, au niveau du canal d'Illérance, il y a un tout petit panneau qui précise ceci. Ici, nous avons restauré une zone humide. Alors, quand vous lisez ce panneau, vous découvrez que, effectivement, avant, c'était planté en peuplier, que cet espace-là avait été drainé pour permettre aux peupliers de pousser. Les peupliers ont été coupés, les drains ont été bouchés, une petite mare a été créée, et dorénavant, il y a là une prairie humide avec une diversité floristique significative, d'une part, et d'autre part, le retour d'un certain nombre de batraciens et autres, j'en doute pas, et surtout, un espèce de stockage, non pas artificiel de l'eau, mais qui s'inscrit dans le temps et qui va pouvoir s'écouler tout lentement, tout doucement. Donc voilà, c'est des choses comme ça que moi j'ai pu observer dans ma déambulation, notamment dans le Massif central. Et on retrouve le pendant sous une forme un peu différente, notamment applicable et appliquée en Bretagne. Ici, à Meillac, on a suffisamment de zones humides, toujours, j'espère qu'on en a encore, qui sont fonctionnelles, et puis on en a eu aussi. Et aujourd'hui, on sait globalement comment on peut remettre en dynamique une zone humide, dans une finalité, effectivement, de stocker de l'eau pour qu'elle soit restituée gentiment au cours des périodes sans eau. Hein. Si vous replantez une haie, et non pas sur plastique, hein, mais sur du paillage, voire sur talus, l'eau va se trouver modifiée dans sa circulation, enfin, sa circulation sera modifiée. Elle suivra à terme le cheminement des racines, donc elle va avoir tendance à s'enfoncer un peu plus creux dans la terre. Et puis le talus va ralentir encore une fois aussi sa vitesse donc d'écoulement vers le fossé qui est plus loin ou le petit ruisseau qui est plus loin. Voilà. Donc pour la flotte, c'est quand même de bon augure, si je peux dire ainsi. Et puis, une haie plantée sur talus va aussi ralentir l'écoulement des polluants. Un phytosanitaire, quand il est mis sur une parcelle de céréales, s'il n'y a rien pour l'arrêter, il peut être lessivé. Et si le ruisseau il est quelques mètres plus bas, les poissons rouges ils vont pas être contents. Et le fait d'avoir un talus, d'avoir une haie, d'avoir une bande enherbée autour de tout cela, parce qu'il y a différentes strates dans une haie, fait que le pesticide va soit être dégradé au niveau de la haie par l'activité microbienne, ou soit sa vitesse d'écoulement va être largement ralentie. Par rapport au fait de marcher comme ça, moi je conseille à tout le monde de prendre le temps de marcher. C'est sans doute le meilleur remède à tous les maux qu'on peut avoir les uns les autres. Mais vraiment, donc un mal au dos, un problème psychologique, une recherche de soi, il n'y a que la marche pour régler ça. Il n'y a que la marche, il n'y a pas d'autre sport. La marche n'est pas violente, la marche vous la faites à votre rythme. La marche, exige en même temps une rigueur, d'être attentionné à soi, parce qu'on est seul, donc on peut faire une mauvaise chute, et donc se retrouver un peu en difficulté. Et puis en même temps, elle demande donc rigueur. Hein, rigueur quant à ce qu'on va faire comme étape, rigueur dans qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, demain et après-demain, parce que faut-il trouver une épicerie, hein, parce que quand on est sur le Massif Central, on peut marcher d'ailleurs plusieurs jours sans trouver une épicerie. Et puis, rigueur sur des choses toutes bêtes, hein, charger son sac à dos. Avoir le moins mauvais rangement possible pour que vous puissiez continuer d'avancer sans perdre un morceau. J'ai perdu comme ça un certain nombre de choses. Un jour, j'ai failli perdre ma toile de tente. J'avais chargé beaucoup d'eau parce qu'il faisait très chaud. Et donc, j'avais sorti ma toile de tente du sac et je l'avais attachée sur le dessus. Et puis, dans les rocailles du sud-est, je ne me suis pas aperçu que le nœud s'est détaché et que la toile de tente est tombée. J'arrive au terme de mon étape, je bricole mon sac à dos. Je dis, mais non, d'une pipe, il me manque la toile de tente. J'ai failli pleurer. Hein. Oui, parce que là, c'est tout qui s'écroule hein, quand même. Hein. Vous avez perdu votre maison pour dormir. Hein. Et je suis reparti à la mer. J'ai une chance extraordinaire. Au bout d'un kilomètre, et je l'ai retrouvé. Mais vous voyez, ça paraît banal, la marche. Mais non. Ça demande toujours un certain niveau de vigilance. Mais voilà, donc c'est pour ça que la marche, c'est un sacré truc, quoi. Tout le monde devrait marcher. On devrait faire des ordonnances sur la marche.
À la ferme du Petit Bois, nous terminons notre périple chez un autre Emmanuel. Celui-ci nous accueille dans son exploitation, un petit paradis pour les bêtes.
Je suis né à Combourg, mais j'ai toujours vécu à Meillac. Comme des parents, on s'est installé avec les parents, et puis là, les parents sont à la retraite. Et puis, ouais. Et on a pris la suite avec ma femme, ma sœur et puis un tiers. On est quatre associés sur la ferme. Depuis 48 ans, je suis à Meillac. Mon métier a fait que je suis resté sur Meillac. Après, les pieds mal liés à Meillac. Enfin, je veux dire, si un jour il faut bouger, je bougerai. Mais pour l'instant, je me plais bien à Meillac. Quoi. Ouais, très bien à Meillac. Ouais. Donc là, on est dans la stabulation principale des vaches avec le séchage en grange. Donc, séchage en grange, j'ai moyen de conserver et de stocker le foin pour l'hiver, qui servira cet hiver. Donc nous, on est en système herbager intégral, quasiment. De l'herbe aux vaches, un maximum de pâturage, et puis après, l'hiver, c'est des céréales et du foin. Et on est en bio depuis 2007. Voilà. On fait de la transformation fromagère. Donc on fait du fromage 3 à 4 fois par semaine. Anaïs et Karine se chargent de la fabrication du fromage et puis de la commercialisation. Tous les petits magasins locaux, bio et locaux. Voilà. Un petit peu à la boulangerie et à la boucherie de Meillac. Et puis aussi ici le vendredi soir à la ferme. Donc on ouvre nos portes le vendredi soir de 16h30 à 18h30. Donc pour faire déguster, découvrir nos produits aux Meillacois et aux alentours, puisque ça vient un petit peu du secteur, du canton, et puis quelques touristes qui peuvent que se trouver là à ce créneau d'horaire. Puisque... Oui, donc là, bah, c'est les futures vaches, donc les petits veaux qu'on élève au lait, aux céréales, paille et foin, donc là, celles-ci ont 3 mois, et ça va de plus en plus, la dernière là-bas à 3 semaines. Et puis, on va les élever gentiment jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, où elles feront leur premier veau et qu'elles nous donneront du bon lait. Voilà. Alors après, les vaches, le plus longtemps possible. Après, une vache, nous, en moyenne, va peut-être faire 4 lactations. 4 lactations, c'est-à-dire qu'elles vont faire 4 veaux. Et puis on va les garder 4 ans, donc ça fait la moyenne entre 6 et 10 ans, quoi, une vache. L'idéal, plus on en garde longtemps, mieux c'est. Et après, c'est plus des problèmes de reproduction, plus de lait. Et puis on a une activité économique aussi, donc c'est vrai qu'on travaille avec du vivant, mais on n'a pas le choix en fin de carrière de se séparer de nos bêtes qui n'ont plus qu'une valeur bouchère. Donc, elles finissent à la boucherie, principalement peut-être en steak haché bio. Mais voilà. Les gens, s'ils achètent de la viande bio, c'est pour leurs enfants, c'est du steak haché. Voilà, c'est pourquoi il y a une grosse demande. Je préférerais qu'elles partent en rhum steak, en roast beef, Mais il y a une très grosse demande en steak haché. Donc même des vaches, des très belles conformations qui pourraient faire autre chose que du steak haché, souvent finissent en steak haché, parce que c'est la demande du consommateur. Quoi. Moi, principalement, j'ai travaillé en conventionnel salarié à l'extérieur avant, et aussi ici, avant de m'installer. Utiliser des pesticides dans les champs, ça ne me convient pas. C'est pas du tout mon truc perso. Après, ça a été un petit peu le déclencheur, c'est de se dire, nous, on se protège... Dans notre tracteur, on se protège, on met des masques, et malgré tout, le soir, quand on a fini notre journée de traitement, on peut avoir des maux de tête, des segments de nez ou des choses comme ça. On dit donc, tiens, c'est peut-être pas si terrible que ça, les traitements ou les pesticides. Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, après avoir fait des visites aussi, avoir vu des gars qui étaient en bio et chez qui ça marchait très bien. Donc le système herbager, c'est mieux adapté pour le bio. C'était pour notre santé, pour la santé des consommateurs, et puis principalement aussi pour la santé de la terre, quoi. Je pense que la qualité de l'eau, on en parle beaucoup aujourd'hui, apparemment il n'y a pas beaucoup de captage où l'eau n'est pas polluée. Après, je sais que les niveaux de pollution sont peut-être de plus en plus durs, c'est un tout, c'est plus une philosophie, voilà. Ça a été très très simple, puisque ma mère, il y avait mon oncle à l'époque, et tout le monde était partant, parce qu'on était quand même la génération de mes parents, où ils ont vu arriver l'industrialisation, le hors-sol, et on les a poussés à faire des poulaillers, des porcheries, en se disant, de toute façon, c'est le modèle économique, il faudra nourrir la planète, donc il faut y aller. Donc les pouvoirs publics incitaient à ce mode de... Et puis, ils étaient en bout de course aussi, les parents en avaient un petit peu marre de... Nous, ils avaient fait le choix de poulailler industriel dans les années 80, en 80, pour dégager un revenu. Donc il y avait un poulailler industriel qui était arrivé, et puis mes parents en avaient marre de cette production, et nous, de toute façon, on ne se voyait pas reprendre cette production telle qu'elle était à l'époque, quoi. Donc non, ça s'est fait très facilement, et on était tous OK sur la ferme pour passer en bio. Donc ça a été assez facile. Et ils avaient déjà engagé un système herbe bien avancé avant de passer en bio. Donc le passage en bio a été assez facile. Ça veut dire que nos vaches sortent tant qu'elles peuvent sortir. Ça veut dire tant qu'elles n'abîment pas trop les champs. Parce que si ça patouille et qu'elles abîment les champs, l'année d'après, il n'y a plus beaucoup d'herbe dans les champs. Donc l'idée, c'est de sortir un maximum. Et tant qu'elles peuvent sortir, elles sortent. Et tant qu'il y a un petit peu d'herbe dans les champs. Et l'hiver, c'est de les soigner. Au printemps, il y a toujours un excès d'herbe, au printemps, de pousses d'herbe. Donc c'est là qu'on peut faire notre foin et le stockage pour l'hiver d'après. Et donc, moi, voir la vache dehors qui broute et qui rumine, c'est mon dada. Donc j'aime beaucoup ça. Et oui, peut-être en opposition avec maintenant les vaches qui sortent de moins en moins, avec un système peut-être plus maïs en silage, quoi. Donc c'est plus voir les vaches dehors. Après, la ferme pourrait être en conventionnel et en extensif, hein, et avoir un système herbe. Mais après, on est tellement proche du bio que voilà. Mais système herbe, c'est vraiment c'est herbe, c'est un maximum d'herbe sur l'exploitation. Quoi. On fait un petit peu de maïs et un petit peu de céréales pour complémenter les petits veaux et les vaches l'hiver. Mais l'herbe en elle-même, si elle est bien associée avec des légumineuses, du type trèfle ou luzerne, est équilibrée. Quoi. C'est un aliment équilibré pour les vaches. Donc il n'y a presque rien à rajouter. Après, on a des niveaux de production qui sont beaucoup moindres, mais des coûts de production qui sont moindres aussi. Donc là, ce que je disais, on est dans la stabulation principale. Hein, donc les vaches viennent deux fois par jour pour la traite. Et en ce moment, elles viennent juste à la traite et elles repartent après la traite dans les pâturages. Et l'été, on leur apporte un petit peu de foin parce que là, l'herbe, ça pousse de moins en moins. Parce que les fortes chaleurs et le manque d'eau actuel fait que l'herbe pousse moins. Donc on leur apporte un petit peu de complément après la traite, un petit peu de foin après la traite. Donc là, elles passent tout l'hiver, on va dire du 15 novembre au 15 février, elles sont là jour et nuit. Donc là, on les alimente avec la griffe à fourrage, la griffe qui est là, et on leur amène le foin qu'on a stocké derrière. Voilà. Et puis la stabulation d'à côté, en parallèle, là-bas, ce sont les vaches taries, les futures mamans, qui vont veler très prochainement. Et puis les génisses qui sont là l'hiver aussi. Quoi. Mais l'été, en général, il n'y a quasiment personne ou plus personne dans les bâtiments.
Vous avez combien de vaches à peu près ?
Donc on a, là, on traite, à la traite, il y a 110 vaches. 110 vaches, donc de race, c'est un croisement de trois races. On appelle ça un croisement de trois voies. Donc la race normande, Primochten et Montbéliard. C'est les trois races laitières françaises. Quoi, pour avoir une mixité, elles sont plus robustes. Et puis une valeur bouchère un petit peu plus intéressante aussi. Tour de la ferme, se balader dans les champs, faire le petit tour le soir, même si c'est toujours les mêmes endroits où je prends toujours autant de plaisir. Je prends toujours autant de plaisir. Et surtout depuis un petit peu, on voit de plus en plus de gibier. Et donc c'est sympa de voir du lièvre, des faisans, petits chevreuils le soir. Je prends beaucoup de plaisir. Un point positif sur Meillac, c'est qu'il n'y a pas eu le remembrement. Lorsque dans des communes voisines il y a eu le remembrement et que des haies ont été abattues à outrance et qui maintenant il faut replanter, nous à Meillac on a eu cette chance là de ne pas avoir le remembrement et qu'on est encore une commune boisée avec des haies, des kilomètres de haies, donc on en replante parce qu'il y en a eu d'abattues, mais on a encore cette chance à Meillac d'avoir beaucoup de haies.
C'est ainsi que nous terminons notre voyage en terre bretonne, et plus précisément sur le territoire de la Bretagne romantique. Meillac nous a offert de riches perspectives et a aiguisé notre regard sur le monde et son écosystème en questionnant les modes de fonctionnement et en plaçant la terre et l'humain au cœur des réflexions. Ici, nous refermons le carnet de bord de ces quelques voyages et de ces précieuses rencontres. Meillac et ses miracles, juillet 2023.
Merci à Marilyn, Georges, Pascal et Alice, Pierre-Yves, Emmanuel et Geneviève, Colette et Jean-Yves, Roland et Pierre, Emmanuel et la ferme du Petit Bois, Franck et Arlette, Emmanuel, les jeunes de Meillac, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont permis et accompagné la réalisation de cette émission.